Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc c'est le groupe d'Évreux d'Amnesty International pour sa première émission bimensuelle du mois de décembre, mardi 12. Et on se retrouvera, on vous le répétera à la fin, on se retrouvera pour la deuxième émission le 27 décembre. Voilà, donc une heure pour parler des droits humains. Et pour les actions d'Amnesty en faveur et pour protéger les droits humains, vous nous connaissez maintenant, vous savez que l'ONG dont on fait partie, Amnesty International, c'est sa vocation de la défense et la promotion des droits humains. Donc ce soir, on a au programme, on va commencer par parler quand même d'un sujet très difficile, mais on ne peut pas ne pas en parler, c'est la situation à Alep. On va vous parler en Syrie, on va vous parler aussi de, si vous aimez le Nutella, je ne sais pas si parmi d'entre ceux qui nous écoutent, vous aimez le Nutella.
Oh, il n'y a pas que le Nutella.
Il n'y a pas que le Nutella, mais c'est parce qu'il y a Sabine qui va vous parler du Nutella avec Jaël. Et puis d'autres sujets, du Qatar, d'Indonésie, de Chine, je ne sais plus si on parle de la Chine.
Non, pas cette fois-ci. Elle n'a pas été retenue,
voilà,
la Chine.
Du Nigeria, et puis de nos informations locales, enfin, etc. Et donc ce soir avec moi, pour animer l'émission, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Jaël.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Ronan derrière, qui s'active toujours à la technique.
Mais non, je vais te faire signe, je croyais que tu allais oublier de nous présenter.
C'est mais non, mais non,
bonsoir.
Mais bon, j'ai parlé des sujets aussi, on n'est pas obligé de faire toujours de la même façon.
Il fait preuve d'initiative.
C'est très bien.
Donc, comme prévu, donc on va vous parler un petit peu d'Alep. Alors, vous ne...
Et il y a Didier.
Ah oui.
Oui, on n'a pas présenté Didier.
Voilà, on m'accuse de ne pas présenter les copains et les copines.
Mais qui ne connaît pas Didier?
Mais moi, de ne pas dire bonsoir.
Mais moi, on ne me présente pas, je vais porter une violente réclamation auprès de la direction de la radio.
Tu peux faire une pétition, si tu veux.
Voilà. Bon. La situation à Alep, un sujet beaucoup plus dramatique, donc vous avez entendu, vous êtes forcément au courant, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est absolument épouvantable ce qui se passe là-bas. J'entendais aux informations ce midi que les forces armées, quelles qu'elles soient des deux côtés, enfin, plus probablement les forces syriennes et russes, sont en train de massacrer la population civile de la zone dite aux mains de l'armée de libération syrienne. Et ça consiste en massacre des malades dans les hôpitaux, en massacre du corps médical qui est encore présent avec un courage incroyable. Ça consiste en massacre,
Tous les hôpitaux ont été bombardés.
Il n'y en a plus, ils n'existent plus, voilà. Ils sont complètement détruits.
Voilà, donc ça consiste aussi en massacre des enfants, comme je le disais, en disparition aussi au fur et à mesure où la ville est reprise par les forces syriennes et russes. On s'aperçoit qu'il y a des adultes. Principalement qui disparaissent parce que, bon, supposé ayant fait partie de l'armée de libération qui luttait contre Bachar el-Assad, enfin toujours les sauges sordides, j'imagine qu'à l'heure qu'il est, ce soir, ces gens-là sont torturés ou autres. Et donc, on se retrouve dans la situation dramatique qu'hélas, on ne connaît que trop à Amnesty International. Et pourtant, après la Deuxième Guerre mondiale, on a pris des grandes positions par rapport au fait de lutter contre les massacres, par rapport au fait qui s'était produit pendant la Seconde Guerre mondiale et toutes les horreurs, donc de prendre des positions fermes par rapport à ça, de faire
que l'ONU soit efficace. Tu veux parler de l'ONU, par exemple ?
Voilà, que l'ONU soit efficace, chose qu'elle n'est toujours pas à l'heure actuelle. Et que c'est la phrase qui revenait toujours, c'était dire « plus jamais ça ». Et on s'aperçoit que malheureusement, le « plus jamais ça » n'est pas respecté non plus et que ça recommence.
Bah, tu mets des avions, des gens qui lancent des bombes, tu mets des gens en bas, tu mets une armée en bas, et là, le monde, il ne sait plus quoi faire. Manifestement, on se retrouve... c'est très compliqué. Voilà.
Oui, c'est très compliqué. Alors, je sais que j'en avais parlé déjà dans une émission il y a quelques temps, en disant que, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent « mais on est impuissant, on ne peut rien faire », enfin, etc. Chose que nous, on ne partage pas vraiment, même si, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, on ne va pas envoyer des tanks pour lutter contre les Russes. Ce serait parfaitement ridicule et inefficace. Mais on continue à lutter pour les droits humains et on continue à lutter journellement pour défendre toutes ces causes-là. Et on considère quand même qu'on participe largement à ces actions-là. Alors, bien sûr, ça nous met en colère quand on voit que ça n'avance pas assez vite et qu'on n'évite pas ce genre de drame. Mais malgré tout, je crois qu'il n'y a pas d'autre position et pas d'autre attitude à avoir si on ne veut pas être réduit à l'impuissance que continuer à s'investir, à militer et à faire, essayer de faire progresser les choses et à faire pression auprès de l'ONU, par exemple, Edith en parlait, ce qui est le cas d'Amnesty, qui est un poste de permanent de droits humains.
Il y a des droits de veto à l'ONU.
Il y a des droits de veto à l'ONU, absolument. Mais bon, voilà, encore une fois, on n'a pas la solution ce soir. On ne va pas dire que l'action d'Amnesty va arrêter le conflit.
Tous les politiques se sont réunis à plusieurs reprises et ça ne donne rien.
Bah, le droit de veto, ça n'a pas bougé.
Enfin, on a quand même passé un cap puisqu'on est aujourd'hui à sacrifier sa propre population. Et ce qui était avant respecter les hôpitaux, les petits drapeaux blancs, etc., aujourd'hui, c'est...
Les civils, les enfants.
C'est les premiers...
J'entendais il y a quelques temps... J'entendais il y a quelques temps, je ne sais plus sur quelle source d'information, mais un chiffre qui est tout à fait parlant. Un spécialiste estimait qu'au début du XXe siècle, il y avait, dans les conflits, il parlait entre autres de la Première Guerre mondiale, dans les conflits, il y avait environ 10% de civils tués pour 90% de militaires. Et le gars expliquait que ça s'était entièrement inversé. À l'heure actuelle, il y a 90% de civils et 10% de militaires qui sont tués en moyenne dans les conflits. Donc effectivement, c'est une dégradation, si on peut dire. Ça m'a fait penser, alors je vais vous en dire un petit mot rapidement, mais sur la position aussi d'Amnesty par rapport aux conflits, parce qu'Amnesty a une position par rapport aux guerres et aux conflits, et dans le cadre de ce qui se passe à Alep, c'est pas inutile de rappeler quelle est cette position et qu'est-ce qu'on essaye de faire, quand on parlait effectivement de rester inactif ou pas, qu'est-ce que nous on essaye de faire. Alors voilà ce que dit Amnesty. Les guerres s'accompagnent invariablement de leur cortège de souffrances et d'épreuves. La guerre, ce n'est pas seulement la mort, c'est aussi le terreau propice aux violations massives des droits humains, notamment à la torture, aux disparitions et à la détention sans inculpation. Les facteurs déclencheurs des conflits armés sont notamment les questions d'identité, d'appartenance ethnique, de religion ou de rivalité dans l'accès aux ressources. Les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Ils représentent 80% des réfugiés et des personnes déplacées. Le viol et les autres formes de violences sexuelles sont monnaie courante durant les conflits armés. Amnesty ne prend pas parti dans les conflits. Notre action consiste à réunir des informations sur les atteintes aux droits humains et les violations du droit international, quels qu'en soient les auteurs et quel que soit le lieu où elles sont commises, et à faire campagne pour qu'elles cessent. Nous soutenons également les victimes dans leur quête de justice. Dans les conflits qui font rage autour du globe, les gouvernements et les groupes armés attaquent régulièrement les civils. Les grandes puissances se montrent malheureusement promptes à manipuler les institutions internationales ou à appliquer le principe de deux poids, deux mesures. Les États fournissent des armes à des forces connues pour leur mépris des droits humains et protègent ensuite les responsables lorsque des violations sont commises. La violence se nourrit des griefs et du ressentiment, née de longues années de guerre et de l'impunité dont jouissent les responsables. Aussi étrange que cela puisse paraître, même en temps de guerre, il existe des règles que toutes les parties sont tenues de respecter. Le droit international humanitaire, on parle également des lois et coutumes de la guerre, a pour objectif de protéger les civils et les terribles conséquences des conflits. C'est un ensemble des règles qui régit de la manière dont peuvent être menées les opérations militaires. Le droit international humanitaire exige notamment que les combattants de toutes les parties au conflit épargnent les civils, ainsi que toute personne qui ne prend plus part aux hostilités, les soldats blessés ou ayant accepté de se rendre par exemple. Les violations graves de ces règles, comme le fait de lancer des attaques directes contre les civils, constituent des crimes de guerre. Chargée de juger les auteurs présumés des crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité, la Cour pénale internationale a vu le jour en 2002. En ex-Yougoslavie, en Rwanda et en Sierra Leone, ceux qui ont ordonné ou commis de tels crimes ont été traduits en justice. La Cour pénale internationale a prononcé sa première condamnation en mars 2012 à l'encontre de Thomas Lubanga, commandant d'un groupe armé en République démocratique du Congo, notamment pour avoir utilisé des enfants soldats. Ce que Amnesty International demande: la fin de l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, la compréhension par les forces régulières des États et des groupes armés que rien ne peut justifier le fait de s'en prendre à des civils, la fin du recrutement et de l'utilisation des enfants soldats, leur démobilisation, leur réadaptation et leur réinsertion dans la société, la mise en œuvre du traité international sur le commerce des armes. Ça, Ronan, il connaît bien le sujet du traité du commerce des armes. On en a parlé plusieurs fois.
Tout à fait.
Via la modification des législations nationales et leur application. Bon, voilà le résumé de la position d'Amnesty. Bien sûr, quand on regarde l'actualité, on s'aperçoit...
On pourrait dire chercher l'erreur.
Voilà, on s'aperçoit que le travail à faire est encore colossal. Mais c'est dans cette optique-là, effectivement, qu'il faut faire pression pour faire évoluer les choses et pour faire que, par rapport à ce qui se passe à Alep, comme on disait tout à l'heure, plus jamais ça. Voilà, après cette petite introduction un petit peu dure.
Je pense qu'on peut aussi envoyer un message de courage à tous ces gens qui sont à Alep.
Oui,
absolument. Parce que voilà, on leur envoie notre courage. On ne sait pas si ça va arriver, mais on en a peut-être besoin, nous aussi.
C'est clair. Et puis ça fait une transition. Enfin, c'était pas, je pensais pas
surtout
spécialement
dans
à ça.
Une mais... fin d'année, j'imagine le Noël qu'ils auront.
Bien sûr.
Pas terrible.
Ça fait aussi transition par rapport aux droits des réfugiés. Évidemment que ces gens-là ont parfaitement le droit de demander asile en Europe. C'est une évidence.
Tout à fait.
Et que les gens qui s'y opposent rajoutent de l'horreur à l'horreur. Deuxième sujet du jour, on va vous parler de tout à fait autre chose, qui était les droits humains et l'huile de palme quand on parlait de Nutella. Alors, il y a un téléphone qui sonne, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Donc moi je vais vous parler des atteintes aux droits humains, moi et Jaël. Dans votre panier de courses, il y a...
Tu fais consommateur maintenant ?
Oui, parce que ça commence à me fatiguer là. Et ça devient du grand n'importe quoi. On est en train de... toute la partie écolo que je défends, bien sûr, mais on est en train d'utiliser les étiquettes à tout va. Et là, ça me dérange fortement. Donc, l'huile de palme est une matière première très demandée, car elle entre dans la composition d'un très grand nombre de produits de consommation courante. Glace, chocolat, shampoing, dentifrice, etc., etc. La plupart des marques vont vous dire que l'huile de palme qu'elles utilisent est durable. C'est nouveau, ça vient de sortir.
C'est vert.
Hein, ce qui signifie que sa production est soi-disant respectueuse de l'environnement et que les personnes qui y travaillent sont traitées de manière équitable. Cependant, une enquête d'Amnesty International a révélé que certaines des plus grandes multinationales, je vous dirai tout à l'heure le nom au complet, continuent et contribue au travail des enfants, à des conditions misérables pour les autres personnes travaillant dans les plantations de palmiers à huile.
Et des atteintes aux droits humains. Ouais, des atteintes aux droits humains se déroulent dans ces plantations tenues par ces entreprises certifiées durables, sur bien que même les marques donc l'étiquette indiquait qu'elles sont fabriquées à base d'huile de palme durable ou certifiée pourraient être effacées de telles attentes. Par conséquent, une grande partie de l'huile de palme contenue dans les articles que vous achetez pourrait avoir été produite dans des conditions non respectueuses des droits humains, même lorsque les étiquettes indiquaient durables.
Oui, ils sont entachés d'atteinte. Ah. Le prix de l'huile de palme, la demande mondiale d'huile de palme en fait un secteur lucratif, mais sa production se déroule au détriment des ouvriers et ouvrières qui y travaillent. Amnesty International a enquêté sur ces plantations indonésiennes de palmiers à l'huile qui fournissent le premier producteur mondial d'huile de palme. C'est Wilmar. Et elle a découvert des cas de travail forcé, de bas salaire, d'exposition à des produits toxiques et de discrimination envers les femmes employées comme ouvrières journalières, sans retraite ni assurance maladie.
Pour répondre à la demande des secteurs de l'agroalimentaire et des biens de consommation courante qui recherchent un produit agricole peu coûteux et polyvalent pouvait être utilisé pour fabriquer toutes sortes de choses. Des personnes subissent des pressions et des menaces visant à les faire travailler toujours plus longtemps en accomplissant des travaux pénibles physiquement tels que les cueillettes manuelles des fruits sur des arbres atteints 20 mètres de hauteur.
S'ils veulent être payés, ces ouvriers, ouvrières doivent cueillir, porter, traiter et ramasser énormément de fruits pour remplir des objectifs ridiculement élevés. Ils peuvent se retrouver avec des fortes douleurs physiques, risquent, outre diverses sanctions pour des fautes telles que de ne pas avoir ramassé des fruits tombés par terre ou avoir cueilli des fruits pas mûrs. Donc non seulement ils travaillent dans des conditions de travail lamentables, mais en plus, hein, ils reçoivent des avertissements, des fautes, on leur déduit des salaires, enfin voilà, une pression constante.
C'est un travail difficile car l'objectif est terrifié. J'ai mal aux pieds ou mains ou dos après avoir travaillé.
Nous dit un petit bonhomme.
Oui, demande aux entreprises d'agir. C'est pour ça Amnesty International a remonté la livière des exploitations. La filière des exploitations d'huile de palme, des activités de Wilmark en Indonésie jusqu'à 9 des plus grandes multinationales sur toutes ces entreprises ont reconnu acheter des huiles de palme en Wilmark. Celles deux entre elles ont précisé dans quel produit elles finissent.
Oui, alors il n'y a que deux d'entre elles qui ont répondu finalement à l'enquête. Ces entreprises disent à leurs consommateurs et consommatrices qu'elles utilisent l'huile de palme durable. Alors pourquoi ne font-elles pas davantage pression sur Wilmark pour que ces ouvriers et ouvrières soient mieux traités? Aucune des 9 multinationales n'a indiqué avoir pris des mesures pour lutter contre les atteintes aux droits du travail dans les activités de Wilmark. Il est temps que les entreprises fassent preuve de plus de transparence sur ce qui est utilisé dans certaines des marques les plus consommées au monde et qu'elles prennent des mesures lorsque ces produits contiennent des fruits, les fruits d'atteinte aux droits humains. Alors, on va vous dire le genre
Les nominés.
Oui, voilà. Donc, ces entreprises, l'entreprise agroalimentaire singapourienne Wilmark, en remontant la filière de l'huile de palme jusqu'à 9 multinationales, il y a AFAMSA, ADM, Colgate, Palmolive, Elevance, Kellogg's, Nestlé, Procter, et Campbell, Reckitt, Benckiser et Unilever.
Oui, ça fait pas mal de marques très connues dans l'agroalimentaire.
Et si on voit, si on décline sur les produits, oui, parce que c'est des gros.
Alors, on va un petit peu résumer parce que c'est
c'est vrai qu'on applaudit quand mais là non.
On a un gros dossier, mais on va peut-être le résumer parce qu'il y a d'autres choses à traiter. Donc simplement, des enfants de seulement 8 ans. Effectuent des travaux physiques difficiles et dangereux dans des plantations de palmiers à huile. Alors, comme les familles n'ont pas d'argent, qu'elles commencent à être bien cassées parce que c'est un travail qui les casse, leur casse le dos, les mains, enfin, ils travaillent toute la journée, hormis le dimanche, toute la semaine, pour être payés une misère. Hein, donc, les enfants, c'est nouveau, à partir de 8 ans, de 8 à 12 ans, il y a de plus en plus d'enfants, soit qui commençaient à aider les parents en travaillant le week-end, le soir, pendant les vacances, et là, qui laissent carrément tomber l'école, parce que ça apporte une aide. Ce n'est pas un salaire supplémentaire, mais ça aide les parents à effectuer leur quota pour avoir le minimum de la journée. Donc, il faut savoir que quand on achète ce genre de produit, moi, je vais devenir très difficile. J'espère que tout le monde va suivre aussi, parce que là, franchement...
Voilà. Et puis, on peut savoir aussi, bon, peut-être...
Tout le monde est au courant, quoi.
Sabine, au niveau du pays, l'Indonésie, c'est-à-dire que ces hectares et ces hectares de palmiers à huile sont au détriment de cultures nourricières ou de forêts. Change complètement pour les gens du pays.
C'est aussi une catastrophe écologique.
Oui, parce qu'on a retiré la culture qu'ils avaient.
Complètement. Ils ont l'impression d'être devables parce qu'on leur donne de l'argent en plus.
Donc, vigilance.
Ouais, mais avant, ils se nourrissaient avec ce qui est planté. Aujourd'hui, le problème, c'est ça le problème.
C'est et quand hectares, c'est la multinationale qui gère les emplois et les conditions de travail, voilà, c'est ce que Sabine vient de vous raconter.
Alors, c'est les enfants aussi qui travaillent sans protection, les enfants, les adultes, hein, dans un environnement plein de dangers, des chutes, des branches, exposition à des produits chimiques toxiques,
bon,
puisqu'ils les utilisent et qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser.
Et ils nous disent comment que c'est de l'huile de palme verte.
Durable.
Durable.
Ouais, durable, je ne comprends pas le mot durable. Ah.
Bah justement.
Ça marche parce qu'ils en vendent.
Mais durable, ça veut dire quoi?
C'est parce qu'ils ne finissent pas la phrase. Elle est durable pour les bénéfices des entreprises qui les produisent.
Je crois que tu as raison, Didier.
Ah d'accord, c'est sous...
Bah ouais, oui, mais la deuxième partie de la phrase est moins correcte, donc ils ne les mettent pas.
Ah, mais c'est vrai que ce truc de palme verte, pourquoi peut-être pas cette place pour marquer la phrase entière.
Ben voilà.
Donc, mais Sabine, qu'est-ce que... les pesticides, des ouvrières qu'on maltraite vraiment en leur faisant des pressions. Donc oui, il y a eu beaucoup d'accidents dus aux lésions provoquées par ces produits qui sont aussi certainement durables,
qui
sont
pareil.
Complètement interdits. Donc en essayant de remplir... leur pulvérisateur, là, quand ils sont en contact avec la peau, ils sont complètement
tu
brûlés.
Tu peux venir qu'il y a des pesticides aussi.
Il y a une personne qui a perdu son œil. Donc voilà ce que...
Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous?
C'est aberrant. Ben, faut arrêter, faut carrément squeezer toutes ces marques-là.
Non, voilà, parce qu'on
s'en parle après. Faut plus, et puis il faut demander à ce que ces grandes boîtes... Il y a des pétitions, il faut aller les chercher. Voilà. À ce que ces grandes boîtes...
Il y a d'abord...
demande à ce que les droits humains soient respectés dans ce travail-là.
Et tu y trouves où les pétitions, autrement, si les gens sont intéressés pour aller...
Faut taper huile de palme. Voilà, et je pense qu'on va trouver.
Oui, et puis en fait, Amnesty vient de publier un rapport que j'ai pas encore eu le temps de lire parce qu'il est paru semaine dernière. C'est ça.
J'en ai tiré quelques, mais voilà. C'est vrai qu'il y en a énormément.
C'est ce rapport-là dont Sabine vous parle, et il y aura très prochainement des actions à faire aussi sur le site d'Amnesty de protestation par rapport à ces sociétés, enfin, etc. C'est un travail qui commence pour Amnesty, mais qui va continuer dans le temps. Donc tenez-vous informés. Effectivement, il y aura des pressions de fait par rapport à ce type de production qui ne respecte pas les droits fondamentaux. On rappelle aussi que le travail des enfants est interdit par la Convention des droits de l'enfant. Le travail des enfants est interdit.
Alors voilà, j'ai retrouvé le nom du... Si les engrais, les pesticides provoquent des lésions irréversibles, c'est parce qu'ils contiennent du paracate, qui est un produit toxique complètement interdit dans l'Union européenne. Villemar affirme avoir supprimé progressivement le paracate en 2012. Mais des personnes travaillant dans les plantations continuent d'en utiliser.
Mais l'industrie, c'est pour
ce qui a des conséquences tragiques.
Oui, mais c'est l'Europe qui mange derrière.
Oui, tout à fait.
C'est nos questions.
Je suis d'accord. Mais il se cache derrière ça, justement.
Voilà. Donc on va rester vigilants. Il faut lire le rapport. Voilà, vous l'avez en lien sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. On le répète à chaque émission, mais n'hésitez pas à vous informer et à vous informer sur les actions qui vont suivre.
Bah oui, on vous tiendra au courant de toute façon au fur et à mesure.
Bah, suite à ça.
Oui.
Tu restes dans le secteur ?
Ouais, je reste un petit peu dans l'environnement pour une bonne nouvelle.
Bon, alors, vas-y, une bonne nouvelle et après on va écouter un peu de musique.
Nous, on va vous dire bonsoir avec Jaël, on va vous abandonner.
C'est pas bien, il reste pas jusqu'à la fin de l'émission.
Donc, si je comprends bien, tu disais que tu résumais parce que c'était long, mais c'est parce que tu es parti vite
fait. Le dossier était gros, tout était important, donc on reprendra la suite la prochaine fois.
On en reparlera de toute façon.
Bon, on note, absence.
Bonsoir.
J'ai une bonne nouvelle, moi, les crimes contre l'environnement, enfin reconnus. C'est une grande avancée pour la défense de l'environnement. La Cour pénale internationale, donc la CPI de la
haie... Il va falloir rajouter Villemar, alors.
Eh oui, tout à fait. La Cour pénale internationale de la haie a élargi son champ d'action aux crimes impliquant ou entraînant des ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, fait le lien pour la première fois entre crimes contre l'humanité et crimes contre l'environnement dans un document publié le 15 septembre dernier. Cela n'est pas passé inaperçu chez Défenseurs de l'environnement et Amnesty International a accueilli cette nouvelle avec une grande satisfaction. Notre organisation a maintes fois dénoncé les expulsions de terrains dues à des activités d'entreprise, par exemple.
Par exemple, comme l'huile de palme aussi. Oui, voilà.
Tout à fait.
Et il y avait une campagne dans les 10 jours pour signer qui viennent de s'achever par rapport à l'expropriation de terres au Pérou. Un peu de musique ?
Oh, je pense que ça serait une bonne chose.
dans ce monde à la dérive, barré comme un bateau ivre, où sont passés les commandants de bord. Et d'abord, qu'on ait voté pour ou contre, c'est la course contre la montre, entre les plus faibles et les plus forts, plus d'accord. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon Nil, ô trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. S'écroule, c'est la panique dans la foule. Chacun se bat pour sauver sa peau, sauf qui peut. Autour des canots de sauvetage, les rescapés du naufrage luttent à mort pour maintenir leur corps hors de l'eau. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île. Là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Ouais, qu'on en crève, il faut poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans regret ni remords. Et toujours le cœur armé de courage, s'arracher au grand naufrage des humains prisonniers de leur peur de l'amour. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon Nil. Trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, groupe d'Evreux, pour la suite de notre émission sur les droits humains. Et on vient d'entendre Jacques Higelin dans un titre qui s'appelle « Délire d'alarme ». Donc maintenant, c'est Edith qui va vous parler du Qatar. On va passer en fait de la production d'huile de palme et de Nutella au sport. On enchaîne les sujets très divers.
On va dire que c'est dans le versant ou dans le... Le travail d'Amnesty par rapport aux droits économiques et sociaux, par rapport aussi aux droits du travail, le Qatar, on vous en a déjà parlé, il va y avoir, semble-t-il, une grosse manifestation de football, voire Coupe du Monde dans quelques années, et les gens qui construisent les stades, alors le Qatar, vous voyez bien où c'est l'endroit où il fait très très chaud avec beaucoup de sable là-bas, et ben, les gens qui construisent les stades sont dans des conditions de vie très très compliqué. On a déjà parlé, je pense, il y a quelques mois.
Oui, on en avait parlé brièvement, en fait, de l'action d'Amnesty par rapport aux droits des travailleurs.
Voilà, parce que c'est des gens qui viennent de pays pauvres. Et quand ils arrivent là-bas, il y a un grand problème, c'est qu'on leur prend leur passeport.
Et oui.
Et après, bah, ils vivent où veulent les laisser vivre les grosses entreprises de bâtiments, de BTP. Ils partent quand ces gens-là veulent. Et il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de gens qui n'ont plus le choix de ce qu'ils veulent faire. Hein, et on leur raconte plein de promesses. Donc là, moi, j'ai vu quelque chose, je me dis, « Waouh, trop bien ! Une réforme du droit du travail au Qatar. » Mais alors, Amnesty a rajouté devant la fausse réforme du droit du travail. Alors, effectivement, le Qatar dit que sa réforme change le droit du travail en mettant fin au système de parrainage qui s'appelle là-bas le kafala des employeurs sur les travailleurs migrants. Mais cette loi, elle semble quand même compliquée parce que tout n'est pas aussi simple que ça. Donc, le Qatar a bien compris qu'il était dans le viseur de pas mal d'organisations non gouvernementales et ils ont essayé d'enlever le mot parrainage, mais le principe reste entier. Alors, je vous donne trois dispositions. Vous allez comprendre comme moi. Donc, si cette loi remplace la tristement célèbre loi de 2009 sur le parrainage, largement considérée comme un facteur essentiel des violations dont les travailleurs migrants sont victimes, trois dispositions font craindre que les travailleurs risquent encore d'être exploités. Alors, la première, les travailleurs doivent toujours obtenir la permission de leur employeur pour changer de travail, sans quoi ils s'exposent à des poursuites pour fuite, si cela a lieu durant la durée de leur contrat, contrat qui peut durer 5 ans. La deuxième, les travailleurs sont toujours tenus d'obtenir un permis pour sortir du pays auquel leur employeur peut s'opposer. La commission gouvernementale examinera les recours formés par les travailleurs lorsque leur employeur s'oppose à leur départ, mais sur des critères qui restent flous.
C'est-à-dire qu'en fait, le très compromis, le travailleur qui a un contrat de travail, il ne peut pas sortir comme il veut. Quoi,
ben non, gros. La liberté est un petit peu...
Oui.
Voilà. Hein. Oui. Donc effectivement, la loi n'est pas tout à fait... on va dire suffisant.
Ben, ça pourrait s'apparenter du travail forcé, quoi, quelque part.
C'est ça, depuis un moment, là. Alors, le refus d'un employeur de constituer le passeport d'un employé, de restituer, excusez-moi, le passeport d'un employé, illégal jusqu'à présent, est désormais légal, en vertu d'un vide juridique que les employeurs aux pratiques abusives peuvent aisément exploiter. Alors, cette nouvelle loi ne fait, par ailleurs, rien pour changer la situation des migrants employés de maison. Ah oui, il y a aussi ça. Dans les pays d'Arabie, il y a beaucoup de migrants qui viennent et qui sont employés de maison, auxquels ne s'appliquent pas ces principales protections prévues par le droit du travail qatarien. Alors Amnesty pense que le Qatar doit mener une réforme systématique de son droit du travail qui abolisse les permis de sortir, interdise complètement la confiscation des passeports et supprime l'obligation pour les travailleurs d'obtenir la permission de leur employeur pour changer de travail. Et Amnesty prolonge un peu la réflexion en disant que dans le cadre de la Coupe du monde de foot, eh bien, on peut aussi peut-être demander à la FIFA, hein, qui est quand même le gros donneur d'ordre qui fait que tous ces chantiers ont lieu actuellement, et aux grands clubs aussi qui s'entraînent et qui jouent au Qatar, pour aussi faire un peu pression pour que ce pays, qui essaye de devenir un haut lieu mondial du football d'élite. Moi, je crois que c'est le Qatar qui téléphone, là.
Ils protestent, oui. Ils ne sont pas d'accord.
Je ne donne à personne, mais je ne le dirai pas.
Ne doivent pas non plus détourner le regard. Alors, on propose deux géants de football, comme le FC Barcelone. Vous êtes d'accord, les gars? FC Barcelone, c'est un beau club.
On ne me pose pas de questions sur le foot, ma pauvre.
Si, il y en a qui connaissent.
S'il y a bien quelqu'un qui est nul en foot, c'est bien moi.
Si, hein. C'est un club qui est connu.
Alors, hein. Le FC Barcelone, il va être présent à Doha le mardi 13 décembre. Tiens.
Le 13 décembre. C'est aujourd'hui.
Ben oui, c'est aujourd'hui pour un match.
C'est fait exprès?
Alors,
vous savez qu'on parlait à la radio.
Je ne sais pas si c'est exprès, mais ils pourraient aussi faire un peu pression sur leurs hôtes pour jouer dans un environnement un peu plus favorable aux droits humains. Donc, si vous connaissez des joueurs, hein, allez, les tweeter, faites quelque chose pour qu'ils le sachent.
Non, mais je n'ai pas leurs adresses, moi.
Oh, c'est dommage.
Non, mais là aussi, vous avez des moyens d'action sur le site d'Amnesty. Hein. Vous allez sur amnesty.fr et vous avez des possibilités pour agir. Hein. Vous regardez dans les actions proposées et vous aurez forcément des choses à faire.
Voilà, tous les amateurs de foot, effectivement, eh ben, les joueurs de foot, ils ne doivent pas avoir la tête que sur leur terrain. Ils doivent voir un peu ce qui se passe à côté.
Là, c'est le Barça, je crois, qui appelle. Là.
C'est le Barça? Ah, je n'ai pas mis le Barça. Alors, pareil pour le Barça, mais ils viennent plus tard.
Il y a une levée de bouclier contre notre intervention.
Voilà. Alors, amateurs de foot ou non, vous voyez, faites pression sur le Qatar.
Oui, et il y avait une petite phrase à la fin de ce que je lisais sur les par-dessus l'épaule d'Edith pendant qu'elle vous parlait. Il y a une petite phrase. Il y a une petite phrase à la fin que j'aimais bien, où c'est marqué, bon, par rapport au respect des droits humains dans le cadre de cette Coupe du Monde de foot, où c'est marqué à la fin, les joueurs et les clubs ne peuvent pas évoluer dans une bulle, et ça veut dire effectivement que les sportifs sont aussi concernés par les droits humains.
C'est ce que j'ai traduit. Voilà. Pas simplement sur le terrain. Tout à fait. Regarder ailleurs.
Tout à fait. Et je trouvais que pas seulement dans une bulle, c'était assez.
Oui, mais toi, t'es pas footeux.
Pas vraiment.
Ben moi, j'y étais. Mais ça fait 20 ans que j'y suis plus.
Non, personne n'est parfait. Non,
non c'est pourri. Quoi.
C'est pourri.
Bah là,
non, je ne permettrai pas ce genre de commentaire.
On ne va pas dire, mais la FIFA,
Je ne suis pas du tout un spécialiste du foot, donc je m'abstiens de tout commentaire sportif dans ce domaine-là. Voilà. C'était toujours Edith qui voulait vous parler, c'était prévu comme ça. Et elle voulait vous parler aussi de. On va partir du
Qatar. Elles sont parties, les filles. C'est comme ça.
On va aller du Qatar en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ça?
Alors, quiz.
On continue la géographie.
Où est-ce que c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée?
On va demander à Ronan. Ronan, il se cache sous la table. C'est à l'ouest de l'Australie, quelque part.
Sabine était en Indonésie. Voilà, ouais. Vous allez vers l'Indonésie, vous continuez un peu sur le côté. Vous avez une petite île.
Vers l'est, à gauche.
Vous avez Timor. Vous avez.
Vers l'est, oui.
On est en Asie. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'on a fait, nous, notre actualité hébroïcienne. Ceux qui sont venus le 4 décembre. Bien, ils ont vu la foire aux livres et la foire artisanale et beaucoup de pétitions. Oui. Ça, c'est forcé avec Amnesty. Oui. Et dans ces pétitions, c'est un moment important pour Amnesty parce que c'est les 10 jours pour signer autour du 10 décembre qui est la
date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Il y en a un qui suit au moins.
Qui est aussi la journée mondiale des droits humains. C'est le 10 décembre de chaque année. Voilà.
Eh bien, ces personnes pour qui on signe, les gens nous disent « Mais vous croyez vraiment, ça fait quelque chose ?» Eh bien oui, ça fait quelque chose. Des fois, ça met beaucoup de temps. Et je voudrais vous parler d'une personne donc, qui habite en Papouasie. Donc, c'est Philippe Karma. Et moi, quand j'ai vu sa libération, hein, parce qu'il a été libéré, à la fin de l'été, on avait fait signer pour lui en 2011. Donc effectivement, voilà, vous allez dire c'est pas magique. Ben non, c'est pas magique, mais il va pouvoir nous donner un peu. Alors je vous raconte parce que la Papouasie c'est un pays très très lointain. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais Philippe Karma c'était l'une des personnes, des 200 personnes qui avaient pris part à une célébration pacifique à Abepura, dans la province de Papouasie, le 1er décembre 2004. Alors, il voulait commémorer la déclaration d'indépendance de la Papouasie qui a eu lieu en 1962 en brandissant le drapeau interdit de l'étoile du matin, emblème de l'indépendance papoue. Alors, les policiers ont alors avancé sur la foule, frappant les gens à coups de matraque. Et Philippe Karma a été par la suite appréhendé, accusé de rébellion et déclaré coupable le 26 mai 2015 et condamné à 15 ans d'emprisonnement.
Pour un drapeau.
Alors, il y a eu des pétitions rapidement par rapport, puisqu'on considère qu'il est vraiment un prisonnier d'opinion quand il a été emprisonné.
Ah, c'est clair.
Et Philippe Karma, à un moment, on lui a dit qu'il pouvait être libéré s'il acceptait de signer qu'il avait été coupable. Et il a systématiquement refusé d'accepter la peine plus légère proposée par le gouvernement, déclarant qu'il n'accepterait qu'une libération inconditionnelle et n'aurait pour commencer jamais dû être emprisonné. Donc, voir la force de caractère de ce personnage. Donc, en 2011, il a fait partie des 10 cas pour signer et plus de 80 pays ont envoyé 65 000 messages de soutien dans le cadre du marathon des 10 jours pour signer, en demandant effectivement sa libération inconditionnelle. Alors, ce que dit Philippe Karma, c'est qu'il remercie les amis d'Amnesty qui se battaient depuis si longtemps pour ma libération. Je voudrais les remercier personnellement, y compris ceux que je ne connais pas, membres d'Amnesty ou pas, tous ceux qui ont signé.
Vous voulez répondre aux 80 000, c'est ça?
Voilà. Je remercie les enfants dans les écoles, les étudiants dans les universités qui m'ont envoyé des lettres de solidarité. Et j'ai toujours besoin de votre soutien, car le combat pour les droits humains en Papouasie n'est pas terminé. Ma libération n'est que le début. Je vais continuer à me battre pour les droits humains en Papouasie. Alors, vous n'avez pas la photo, mais Philippe Karma, il est tout souriant. Et il a accepté de répondre à une petite interview d'Amnesty pour expliquer quelle est la force de son combat et comment on peut devenir militant. Alors, à côté, j'ai un papou qui s'appelle Didier, qui va répondre. Moi, je vais l'interviewer et il va prendre les paroles de Philippe Carman. Plus, là.
C'est Didier ou c'est Philippe?
Tu vas faire Philippe.
Bah, je lui prête
avec l'accent.
Je lui prêtais ma voix. Ah bah je connais pas l'accent papou. Il faut le donner à Renan. Alors Renan est un spécialiste de l'accent papou. Il répète ça tous les matins. Sous la douche.
Bon alors la première question qu'on lui a posée, c'est pourquoi êtes-vous devenu militant?
Les papous ont demandé l'indépendance parce que beaucoup savaient que le référendum de 1969 sur l'indépendance avait été inéquitable. Pendant cette période, ils ont été victimes d'actes d'intimidation de la part de l'armée indonésienne. Des personnes ont été tuées et d'autres ont disparu. Les papous vivaient dans la terreur, sans avoir le courage de faire entendre leur voix. Je ne pouvais pas accepter ça.
Alors pourquoi défendez-vous la non-violence ?
Quand j'étais fonctionnaire, dans les années 90, j'ai été invité à étudier un an aux Philippines. J'ai découvert qui étaient Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Comment combattre les injustices avec des méthodes pacifiques? Je me suis dit que les papous devaient eux aussi défendre leurs droits de façon pacifique.
Racontez-nous votre première expérience de la prison.
Quand Suharto, ancien président, a démissionné en mai 98, j'ai pensé que c'était le moment de lancer une campagne pacifique en faveur de l'indépendance de la Papouasie. J'ai organisé un rassemblement à Biak et c'est moi qui ai fait brandir le drapeau Étoile du Matin, l'emblème de l'indépendance papou. J'ai été condamné à 6 ans et demi de prison pour trahison.
En tant que militant, quel danger avez-vous rencontré?
En détention, j'ai reçu des menaces de mort. On m'a envoyé une tête de chien. Il y avait une lettre dans ce paquet qui disait « Je connais ta famille, je connais tes activités, je sais tout. Alors ne te mêle pas de ça. »
Vous avez de nouveau été emprisonné en 2004. Qu'avez-vous ressenti à votre libération?
Le 18 novembre 2015, un responsable de la prison m'a dit que j'allais être libéré dans l'heure. J'ai commencé par refuser. C'est très cruel. Pourquoi voulez-vous me mettre dehors aujourd'hui? Il me faudra au moins une période de réadaptation avant d'être libéré, ai-je déclaré. Ils m'ont relâché le lendemain. J'étais sous le choc.
Qu'a représenté pour vous le soutien d'Amnesty International?
Quand j'étais en prison, j'ai reçu beaucoup de lettres du monde entier. J'adresse tous mes remerciements aux amis d'Amnesty International qui ont milité en ma faveur. Ces lettres m'ont également énormément aidé. Elles m'ont donné du courage, de l'espoir et du réconfort. Grâce à elles, je ne me suis pas senti seul. Voilà. Bon, c'est tout à fait symbolique et révélateur de ce qu'on répète à longueur d'émission et ce qu'on répète quand on rencontre les gens. C'est qu'effectivement, le soutien aux prisonniers pour demander leur libération, c'est aussi fondamental pour eux pour briser leur solitude. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on essaie de développer le plus possible. On a prévu de vous parler, mais on va peut-être passer un petit peu de musique. On va changer un peu l'ordre, parce que je pense qu'on va en parler après, de l'état d'urgence en France, mais on va écouter un peu de musique.
Imitation of life.
Bien, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux, pour la dernière partie de l'émission. Et on vient d'entendre REM, on va prononcer à la française.
REM.
Oui, mais enfin, ça ne se prononce pas du tout comme ça en anglais, mais bon.
Moi, je suis français.
Un morceau qui s'appelle Imitation of Life, si je me rappelle bien. Voilà, donc on voulait vous parler de l'état d'urgence. Il y a un débat en ce moment, on vient de se renseigner là tout de suite sur Internet, et il y a un débat pour savoir si, à l'Assemblée nationale, pour savoir si l'état d'urgence est une nouvelle fois
prolongé. Je suis en live.
Une nouvelle fois prolongé, mais...
Là, c'est de l'anglais, ça.
On a beaucoup de craintes que cet état de fait soit effectivement prolongé une nouvelle fois.
Le gouvernement le propose toujours. Voilà. Voilà. Après...
Alors, donc on va vous parler un petit peu de la position d'Amnesty International. Alors que les dérives de l'état d'urgence sont de plus en plus évidentes et son utilité contestée, retour sur certains des arguments utilisés pour prolonger ce régime d'exception. Les spécialistes disent que l'état d'urgence est nécessaire, laissons-les travailler. Des dizaines de responsables de l'antiterrorisme et de la sécurité en France ont été auditionnés par une commission d'enquête parlementaire dédiée à la lutte antiterroriste depuis janvier 2015. Celle-ci s'accorde pour dire que les mesures de l'état d'urgence ont eu un effet réellement déstabilisateur dans les jours qui ont suivi les attentats de novembre 2015. S'il était réel, cet effet déstabilisateur lié à la surprise des opérations menées semble s'être rapidement amenuisé, comme l'ont noté les directeurs départementaux de la sécurité publique, également entendus par les commissions des lois le 11 janvier dernier. Bon, plus loin, Amnesty dit, plus d'un an après, il semble que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence se soient surtout substituées aux procédures antiterroristes, préventives et répressives déjà existantes. En revanche, les conséquences dramatiques des mesures de l'état d'urgence sur les vies de très nombreuses personnes, et notamment d'enfants, ont été très largement dénoncées et documentées par le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme de l'ONU et de nombreux rapporteurs spéciaux, entre autres. Un certain nombre de parlementaires expriment leurs doutes, voire leur opposition à un état d'urgence s'installant durablement en France. Pourtant, lorsque les mêmes doivent voter la prorogation de l'état d'urgence, beaucoup votent pour sa reconduction. Ils sont aussi nombreux à s'abstenir d'apparaître dans l'hémicycle le jour du vote. On pourrait dire quel courage. Peut-on espérer un sursaut en décembre 2016 ? L'état d'urgence ne s'en prend qu'aux personnes suspectées de terrorisme. Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence visent bien plus largement que les seules personnes soupçonnées de préparer l'acte terroriste. Les mesures administratives d'assignation à résidence, perquisition administrative, fouille de véhicules, etc. sont autorisées contre toute personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'est ce qui a permis d'assigner à résidence des militants écologistes dès novembre 2015 ou d'interdire à de nombreuses personnes de manifester, alors même que la plupart n'ont pas... Ah ben j'ai pas la fin. On n'a pas la fin du texte, excusez-moi.
N'avait pas.
Il y avait une petite erreur d'impression.
Excellent.
Voilà.
C'est moi qui ai fait un copier-coller du texte. Donc alors même que la plupart n'avaient absolument rien à voir avec le terrorisme,
bien sûr, on aura compris.
Et puis Didier, il a été un petit peu vite. Moi, j'avais trouvé ça rigolo. C'est que effectivement, qu'est-ce qui était important, c'était l'état d'urgence avec. L'effet d'annonce, l'effet de rapidité, et les directeurs de la sécurité disent au bout de quelques jours, voire une semaine, mais les gens nous attendaient. Ils disaient « Ah, vous allez venir ? Ah ben on vous attendait. » Donc à quoi est-ce que ça sert, franchement ?
Bien sûr. Et moi j'avais dans une émission qui remonte il y a quelques mois, on vous rappelle que les podcasts de nos émissions sont tous sur le site de Principe Actif, hein, donc vous avez sur le site de Principe Actif la rubrique Amnesty International, et vous avez toutes nos émissions depuis des années. Et il y a quelques mois, j'avais fait une chronique sur un moment de la création de l'état d'urgence, et qui montrait bien avec l'étude de toutes les lois qui avaient été votées depuis les années 90 pour protéger des actes terroristes, qu'en fait l'état d'urgence ne faisait que reprendre toutes ces lois-là, et qu'il y avait déjà tout l'arsenal judiciaire largement suffisant pour que la police puisse poursuivre les gens qui se rendent coupables de terrorisme, et que l'état d'urgence n'apportait rien d'autre, si ce n'est que retirait en fait les prérogatives des juges pour faire que la justice reste neutre et impartiale, ce qui pour nous est un problème de droit fondamental. Voilà,
on voulait vous
parler aussi, mais on va pas avoir le temps. On voulait vous parler aussi de, ça c'est clair,
c'est frustrant quand
de
même.
de la position d'Amnesty qui justement, ça faisait suite à cette chronique-là. Enfin, je vais quand même vous en dire un tout petit mot rapidement.
Oula, deux minutes.
Amnesty International depuis l'été dernier a fait quelque chose qui s'était jamais fait en France par rapport aux manifestations justement, quel que soit le motif de la manifestation et aux éventuelles atteintes à la liberté d'expression qu'a pu ce à quoi a pu aboutir. sortir certaines prises de position des autorités, enfin, etc. Et à la remise en cause du droit de manifester. Des observateurs d'Amnesty International France sont allés sur le lieu des manifestations pour voir si la liberté de manifester et la liberté d'expression étaient bien respectées. Alors ça, c'est une nouveauté, effectivement, qu'Amnesty France s'intéresse à ce genre de droit en interne par rapport à ce qui se passe chez nous. Donc ça montre bien la dégradation aussi de tout ce qui se passe par rapport à ces droits-là. Encore une fois, le droit de manifester est un droit fondamental. Le droit d'expression est un droit fondamental. Ce qui est interdit, c'est d'appeler à la violence et à la haine. Mais tout le restant des propos est autorisé par la loi. Voilà. Donc Amnesty est observateur par rapport à ces manifestations. Bon, il y a tout un article que j'avais pris, mais que je vais vous résumer de cette façon-là. Et en disant que de toute façon, si les atteintes à la liberté de manifester continuent à être une préoccupation pour Amnesty International, on continuera à envoyer des observateurs dans ce genre de manifestations. Encore une fois, Amnesty ne prend absolument pas parti pour ou contre le bien fondé de la manifestation. C'est simplement le droit à manifester qui est défendu.
Et pour les curieux, allez sur le site d'Amnesty, vous allez trouver l'article que Didier vous a résumé.
Voilà. On va passer aux dernières informations.
Actualité.
Voilà, actualité locale, comme on fait toujours. Ah non, tu voulais faire un appel à l'action.
Appel à l'action.
Moi, je vais partir.
Si. Renan, vas-y.
Chaque fois, on me zappe depuis plusieurs émissions.
Vas-y.
Parce que l'action, ça fait partie
de l'Amnesty. Tout à fait, l'appel à l'action. Donc là, on part en Irlande. En Iran, plutôt. C'est moi qui pars en Irlande.
En Irlande la géographie. Renaud et la géographie.
Non, mais
c'est prochaines vacances.
C'est en Iran.
C'est pas en Iran, c'est en Irlande.
Bon, Amnesty International a appris le 21 novembre qu'Iman Humadinejad, âgé de 22 ans, avait été informé le 6 octobre par les autorités de la prison que le responsable responsable du pouvoir judiciaire avait approuvé la mise en œuvre de sa condamnation à mort et que sa famille devait redoubler d'efforts pour demander la grâce de la famille du défunt, car son exécution pouvait intervenir à tout moment. Iman a été condamné à mort en août 2012 par un tribunal pénal de la province du Kurdistan qui l'a déclaré coupable d'avoir poignardé à mort un autre garçon lors d'une bagarre. Il était âgé de 17 ans au moment des faits. Iman a été condamné à l'issue d'un procès d'une iniquité flagrante qui a pris en compte les éléments de preuve obtenus sur la torture. Il a été arrêté le 22 avril 2012 alors qu'il avait 17 ans. Il a été transféré par la suite vers un centre de détention non dévoilé où il a été retenu pendant 20 jours sans pouvoir consulter un avocat ni communiquer avec sa famille. Il a déclaré que durant cette période, il a été torturé. Plusieurs passages à tabac lui ont d'ailleurs laissé des cicatrices et des ecchymoses sur tout le visage et le corps. Il a également été suspendu au plafond par une corde qui lui liant les pieds. Selon ses déclarations, les policiers l'ont violé avec un objet de la forme d'un œuf, ont menacé de lui couper les testicules et chaussé de bottes, l'ont piétiné sur tout le corps. Par ailleurs, Iman Humadinejad a été jugé par un tribunal pour adultes et n'a donc pas bénéficié de la protection prévue par la justice des mineurs. Donc, en fin de compte, c'est...
C'est une action très urgente, qu'il est condamné.
Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous envoyez un petit mail sur le mail d'Amnesty. Donc, c'est amnesty.evreux@gmail.com.
Et on vous envoie l'action.
C'est ça.
Tout à fait.
Maintenant,
j'étais entre .com et .fr.
.com. Gmail, c'est toujours .com.
Je ne suis pas très... Oui. Bon, ok.
C'est toujours .com. Donc, c'est gmail.com. Voilà. Amnesty.evreux,
gmail.com. Donc, surtout, envoyez-nous un mail. Vous dites que vous êtes intéressé.
Passez par passif actif.
Tout à fait. La lettre, mais c'est vrai que quand on voit des aveux sur la torture, c'est bon.
Vous envoyez vos coordonnées et on vous envoie la lettre
prérédigée. Tout à fait. Et surtout, qui était mineur. Tout à fait. Oui, la lettre est
Rédigée.
Elle est déjà écrite, vous n'avez qu'à signer.
Bon. Voilà, merci. Bon, je te laisse la parole.
Alors, information locale, on va parler tout de suite, avant que ce soit trop, que l'émission s'arrête, d'une pétition qu'on vous demande d'aller signer, qui ne vient pas d'Amnesty, mais qu'on soutient avec beaucoup de conviction, qu'on vous demande d'aller signer sur le site change.org, qui est destiné à monsieur le préfet de l'Eure, et qui s'appelle, alors sur le site de change.org, vous tapez « Monsieur le préfet de l'Eure, le droit de vivre sous un toit est bafoué à Évreux et dans l'Eure ». Bon, si vous avez partenu, c'est pas grave, vous allez sur change.org. Dans le moteur de recherche, vous tapez « Évreux » ou « Monsieur le préfet » et vous arriverez effectivement sur la pétition. En deux mots, c'est une pétition qui est faite par un collectif qui est soutenu par Amnesty, même si nous...
Donc Claire Lise nous parle régulièrement.
On n'en fait pas. Claire Lise, c'est celle qui était venue faire des émissions avec nous, qui reviendra et qui parlait beaucoup du droit des migrants.
De ce qui se passe vraiment à Évreux.
Bonsoir Claire Lise.
Bonsoir. Et donc, c'est un collectif qui est soutenu par Amnesty, même si on n'en fait pas directement partie, et qui fait pression auprès du préfet pour que les migrants et les réfugiés aient un droit, et un droit fondamental, qui est le droit d'avoir un toit toit et qu'il ne soit pas condamné à dormir à la rue, comme c'est trop souvent le cas actuellement. Et elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure, elle ne m'a pas mis de chiffre clairement, elle m'a dit que trop de personnes sont encore à la rue à Évreux et vous devez effectivement en rencontrer. Donc il faut absolument faire pression auprès de monsieur le préfet pour que des mesures soient prises.
Signez, faites passer la pétition.
Pour que ces personnes-là puissent bénéficier d'un toit. Encore une fois, le droit d'avoir un toit, ça fait partie de... C'est un article
à Évreux,
de la...
on est combien d'habitants à Évreux ?
55 000.
Ouais, bah alors il y a des, voilà, il pourrait y avoir le préfet qui reçoive plein de pétitions.
Et on rappelle que le droit d'avoir un logement décent, enfin un toit, c'est un droit fondamental, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ce n'est pas soumis à condition, c'est pas à condition que, c'est un droit, point. Voilà, donc on profite aussi de cette émission pour remercier tous ceux qui nous ont filé un coup de main, et ils étaient nombreux à l'exposition Foire aux Livres de dimanche 4 décembre dernier.
Merci à tous les gros
qui
bras.
Qui a bien fonctionné. Merci à Artisans du Monde qui est, dont l'aide était indispensable comme tous les ans. Merci aussi
à Jean-François,
à Luc de l'APF, enfin l'Association des Paralysés de France, qui nous a aidé aussi pour le transport de nos 3 tonnes de livres. Et, bon,
et merci, à tous ceux qui sont venus nous
merci
voir.
Merci à tous les bénévoles, merci aux artisans qui étaient présents, etc. Etc. Dernière info locale, mais on a encore 2 minutes. Hein, Renan, il fait des grands signes derrière.
Ah non, mais c'est bon, pas toi qui parle. Là.
Ouais, bon, d'accord.
On a le téléphone fantôme.
On a le téléphone fantôme
et
qui reçoit.
La personne qui appelle à chaque fois. Donc...
Là, c'est un club de foot, mais il téléphone en retard hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a réalisé qu'on les avait critiqués.
Non, mais par ça, j'ai raccroché. Là. C'est... Voilà. Non, c'est fini. Là.
Et donc, autre information locale. Alors, on vous en reparlera dans les prochaines émissions parce que la date n'est pas définitive, mais au mois de janvier, on a de bons espoirs.
On pense vous inviter au cinéma.
On pense vous inviter au cinéma pour venir à une soirée Amnesty pour un film qui s'appelle Bienvenue, qui parle d'un sujet brûlant d'actualité qui est les réfugiés, mais sous un aspect tout à fait original parce qu'il traite de façon un peu humoristique. C'est l'hôtel, c'est l'histoire de quelqu'un
qui tient
qu'ils
vont
un
voir,
hôtel
ils vont regarder.
En Norvège et dans lequel il se passe des choses assez bizarres et assez curieuses concernant les droits des réfugiés.
Ça fait du bien, un peu d'humour.
Donc voilà, tout à fait,
donc
ça fait du bien. Même...
On vous donne rendez-vous au mois de janvier après
sans
les fêtes.
Sans doute un mardi.
On vous en reparlera, on n'a pas encore la date, mais on vous en reparle dans les prochaines émissions. Voilà, bon, continuez sinon à soutenir les actions d'Amnesty. Comme on le dit toujours, n'hésitez pas à aller consulter le site www.amnesty.fr.
Je pense qu'on peut leur souhaiter à tous
oui, bien
un
sûr.
Bon Noël, bien sûr. Parce qu'on vous retrouve
les
après.
Les fêtes de fin d'année arrivent très vite.
À part Didier qui est présent, moi je vous souhaite une bonne année parce que la prochaine émission c'est le 27 et je ne serai pas présent.
Et ben moi non plus.
Est-ce que tu as amené un mot de tes parents, Renan, comme excuse s'il te plaît.
Je pense que ça fait
la Bretagne l'appelle.
Tu es chargé de la technique et c'est un petit peu intolérable que tu ne viennes
ça
pas.
Ça fait un petit moment que je fais les mots moi-même.
Non, vous inquiétez pas. On sera là le 27 décembre en direct sur l'antenne. C'est notre prochaine émission, donc entre Noël et le jour de l'an. Une émission un peu spéciale. On essaiera de faire des choses un peu positives, enfin de mettre l'accent sur les choses positives.
On est là déjà.
Et puis donc allez sur le site, faites toutes les actions, les pétitions. N'hésitez pas à tweeter. Il y a des offres aussi pour tweeter par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et aussi si vous avez la moindre information, amnesty.evreux@gmail.com.
Au revoir, allez, bonne fête à tous.
Bonne fête à tous.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués